Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour, c'est un des piliers de nos démocraties, une justice indépendante. Et Bruxelles ne s'y est pas trompé, qui rappelle sans cesse à l'ordre Varsovie et Budapest. Hors de l'UE, la Turquie muselle aussi sa justice. Le 25 avril dernier, l'homme d'affaires et mécène Osman Kavala a été condamné à la prison à vie pour, je cite, « tentative de renversement du gouvernement ». 7 coprévenus ont écopé d'une peine de 18 ans de prison. On lui reproche d'avoir joué les médiateurs lors des grandes manifestations du parc Gezi au printemps 2013. La Cour européenne des droits de l'homme a réclamé sa libération en vain. Un procès très médiatisé qui ne fait qu'appuyer une réalité inquiétante, la disparition de l'indépendance de la justice turque. À Istanbul, c'est le reportage d'Anne Andlauer.
Le 4 mai, 9 jours après sa condamnation à une peine incompressible de prison à vie, le mécène Osman Kavala a envoyé un court message depuis la prison d'Istanbul où il est détenu depuis 4 ans et demi. Sa lettre concluait sur ces mots.
Ce procès a révélé aux yeux de tous l'état où est tombée la justice. On comprend mieux le danger grave que constitue pour les citoyens cette manipulation de la justice.
Le procès d'Osman Kavala et de ses co-accusés est un cas d'école. Une succession d'atteintes à l'indépendance du pouvoir judiciaire qu'on aurait peine à énumérer. Faut-il parler des juges qui l'avaient acquitté en février 2020 et ont aussitôt affronté une procédure disciplinaire? Ou de ceux qui, quelques heures plus tard, avant même qu'Osman Kavala ait le temps de quitter sa prison, l'ont réincarcéré au prétexte d'une autre enquête? Des deux juges qui l'ont condamné, le 25 avril dernier, à cette lourde peine, malgré l'opposition d'un troisième collègue qui jugeait vide de preuve l'acte d'accusation, de l'un de ces deux juges dont les avocats de la défense ont découvert qu'il était membre du parti du chef de l'État, ou alors des discours fréquents de Recep Tayyip Erdogan appelant à laisser Osman Kavala derrière les barreaux. Milena Büyüm, chargée de campagne sur la Turquie à Amnesty International, ajoute un dernier exemple à cette liste interminable. La décision de fusionner le procès d'Osman Kavala avec celui d'un groupe de supporters de foot très impliqués en 2013 dans les manifestations de Gezi.
Souvenez-vous comment, l'été dernier, la justice a décidé de fusionner le procès Kavala avec un autre procès. C'était en pleine vacances judiciaires. Un juge du procès Kavala, celui qui avait demandé la fusion, s'est retrouvé nommé de façon temporaire à la cour chargée d'évaluer cette demande. Et bien sûr, il a approuvé sa propre demande. Ce sont autant d'exemples qui montrent de façon éclatante l'absence d'indépendance de la justice, quand bien même le gouvernement affirme le contraire.
La fusion de ces deux affaires a d'ailleurs été annulée quelques mois plus tard par le tribunal, aussi arbitrairement qu'elle avait été décidée. Si la justice turque n'a jamais été un modèle d'indépendance, tous les défenseurs des droits de l'homme s'accordent à dire que son État n'a cessé de se dégrader ces dernières années, en particulier depuis l'adoption en 2017 d'un régime hyper-présidentiel. La réforme constitutionnelle a notamment permis au chef de l'État et à sa majorité au Parlement d'avoir la haute main sur le Conseil des juges et procureurs, donc sur les nominations et révocations des juges et magistrats. Dans les procès les plus politiques, comme celui d'Osman Kavala ou de Selahattin Demirtas, ancien leader du parti pro-kurde HDP, emprisonné depuis 5 ans et demi, cet état de fait oblige les avocats à développer des stratégies dont ils savent pourtant qu'elles seront inefficaces. C'est ce que raconte Benan Morlu, l'une des avocates de Selahattin Demirtas.
Vous devez toujours vous demander d'où peut venir le prochain coup. Par exemple, s'il y a une possibilité pour que votre client soit libéré à la prochaine audience, vous devez vous pencher sur les autres dossiers qui pourraient donner lieu à l'ouverture d'un nouveau procès et à une réincarcération, et sur les autres procès en cours qui pourraient aussi déboucher sur une condamnation dans le but de maintenir votre client en détention. Vous devez toujours réfléchir à la prochaine manœuvre du gouvernement. Bien sûr, vous n'y changerez rien, mais au moins, vous vous sentirez préparé.
Dans une autre affaire symbolique, la justice turque a plié aux demandes du pouvoir politique en enterrant, début avril, le procès de l'assassinat de Jamal Khashoggi. Recep Tayyip Erdogan avait pourtant porté haut et fort son indignation lorsque ce journaliste saoudien avait été tué en octobre 2018 dans le consulat de son pays à Istanbul. Mais le dossier a finalement été transféré aux autorités saoudiennes, au nom de la réconciliation récente entre Ankara et Riyad. Et lorsque ce sont des journalistes turcs qui sont agressés, voire assassinés, comme deux l'ont été ces deux dernières années, la justice n'est pas davantage efficace, dénonce Erol Önderoğlu, représentant local de Reporters sans frontières.
Il y a une certaine clémence du gouvernement lorsque des journalistes critiques sont visés. Il est de plus en plus difficile de s'attendre à ce qu'un procureur, à ce qu'un juge prenne initiative et applique une procédure adéquate à la menace lorsque l'ingérence politique est si importante.
Enfin, ceux qui s'estiment injustement traités et condamnés par la justice turque n'ont même plus, en pratique, l'espoir d'obtenir gain de cause auprès de la justice européenne. Car dans les procès politiques, comme celui d'Osman Kavala ou de Selahattin Demirtas, la Turquie refuse désormais d'appliquer les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH. De quoi démoraliser les avocats comme Benan Molu.
Quand j'entre dans une salle d'audience, je me sens totalement inutile. C'est dur, à la fois professionnellement et humainement. Je me souviens qu'en novembre 2018, la première fois que la CEDH a ordonné la libération de l'opposant Selahattin Demirtas et qu'il n'a pas été libéré à cause d'une condamnation prononcée quelques jours plus tard, je me suis effondrée. J'ai mis une semaine à m'en remettre. Je me disais, comment est-ce possible? Même ça ne suffit pas à faire libérer mon client? Je me demandais ce que je pouvais faire de plus. Mais il n'y avait rien à faire de plus. J'avais déjà obtenu la meilleure décision possible de la plus haute juridiction possible. Et ça ne suffisait pas.
Les Turcs eux-mêmes n'ont, semble-t-il, plus grand espoir dans leur justice. Dans un sondage récent de l'Institut Aksoy, seuls 15% de ceux interrogés l'a jugée indépendante, contre 60% qui affirmaient le contraire. Seuls 18% des Turcs disaient lui faire confiance, dont moins d'un tiers des électeurs de Recep Tayyip Erdogan.
Qui jugera des crimes de guerre en Ukraine? Le premier procès d'un soldat russe s'ouvre à Kiev aujourd'hui. Mais à terme, peut-on imaginer la Cour pénale internationale ou bien une cour ad hoc spécialement mise en place pour juger ces crimes? En attendant, la collecte de preuves est menée par de nombreuses institutions. Bonjour Stéphanie Maupa, vous êtes notre correspondante à La Haye auprès de la Cour pénale internationale. Peut-on dire que brandir des menaces de sanctions judiciaires contribue à mettre la pression sur la Russie pour que la guerre se termine rapidement?
Oui, cela fait en tout cas partie de la réponse globale à l'invasion russe, un levier politique aux côtés des sanctions prises contre Moscou. Alors, dès les premières semaines de guerre, promesses et annonces se sont succédées. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a mis sur pied sa commission d'enquête. L'OSCE mène aussi ses investigations. Des États comme la Pologne, la Lituanie ou l'Allemagne ont ouvert des enquêtes pour crimes de guerre. Des ONG ukrainiennes et internationales produisent des rapports réguliers. Quant à la Cour pénale internationale, elle a obtenu un soutien inédit, soutien politique et soutien matériel en hommes et en moyens financiers. Il y a enfin les enquêtes conduites par le parquet général ukrainien. Depuis le début de la guerre, les procureurs et policiers du pays ont été mobilisés. La justice ukrainienne a aussi réclamé et obtenu le soutien d'experts, le plus souvent d'ex-avocats et enquêteurs des tribunaux internationaux. Mais toutes ces initiatives ont créé une forme de compétition et surtout un immense chantier. Alors depuis des semaines, chacun se rêve en coordinateur de ces multiples initiatives.
Alors parmi ces initiatives, il y a celle de l'Union européenne. Très rapidement après le début de l'invasion russe, une équipe commune d'enquête a été créée par l'Ukraine, la Lituanie et la Pologne sous l'égide d'Eurojust. Pourquoi ?
Alors l'idée, c'est de faciliter la coopération judiciaire en permettant aux États membres de cette équipe commune de partager des preuves et notamment les témoignages de réfugiés, car ce sont ces pays qui en ont accueilli le plus grand nombre. Alors vous le savez, l'organe de justice européen sert de plateforme à des magistrats pour coopérer ensemble sur des dossiers transnationaux. C'est donc ce que font l'Ukraine, la Pologne et la Lituanie. D'autres États pourraient décider de les rejoindre. Mais le fait le plus inédit dans cette histoire, cette équipe d'enquête a signé un accord avec la CPI lui permettant d'accéder aux preuves et de partager les siennes sous certaines conditions. Et ces preuves, il va falloir les stocker. Alors la Commission européenne a proposé le 25 avril de renforcer le mandat d'Eurojust, et cela dans l'idée de permettre à Eurojust de centraliser et de conserver un plus grand nombre de preuves que ce qu'elle a la capacité de faire actuellement.
Merci Stéphanie Maupa. La Haye a noté que la dernière émission Carrefour de l'Europe présentée par Léa Lisa Vesterov est consacrée à la justice internationale et aux crimes de guerre, à retrouver dans la rubrique podcast du site de RFI. Et à l'heure de la transition gouvernementale en France, on se penche sur une justice, certes indépendante, mais en souffrance. Dans son dernier rapport, le Conseil de l'Europe juge d'ailleurs inquiétante la lenteur de la justice. Les magistrats dénoncent depuis des années une institution au ralenti faute de moyens. Le budget qui lui est dédié est par exemple de 130 euros par citoyen en Allemagne, contre 50 en France. Alice Rougeat s'est rendue au tribunal de Nanterre, en banlieue parisienne. Les décisions au civil et aux affaires familiales peuvent prendre plusieurs années aux grandes dames des justiciables.
Deux années. Au tribunal judiciaire de Nanterre, divorcer prend en moyenne deux années. Car depuis une dernière réforme, il faut d'abord prendre rendez-vous avec l'institution avant d'ouvrir un dossier. Cela rallonge considérablement les délais pour des audiences. Et les premiers à en payer le prix, ce sont évidemment les justiciables. Dans un bureau non loin du tribunal de Nanterre, Maya Assi est avocate spécialisée en affaires familiales.
Il y a des gens qui sont laissés comme ça, dans des situations extrêmement difficiles, que ce soit pour les enfants ou que ce soit matériellement. Les vies personnelles sont quasiment arrêtées, quoi. Enfin, quelqu'un qui veut divorcer et qui projette une autre vie, bah, pendant ce temps-là, bah, on peut rien concrétiser, en fait.
Maya Assi ne compte plus les reports de dossiers ni les appels de clients en pleurs. Même si en matière de divorce, Maître Assi soutient qu'un arrangement à l'amiable est toujours préférable pour l'ensemble de la famille, cette justice lente peut avoir des effets délétères si le couple ne trouve pas de terrain d'accord.
Lorsque y a des situations de crise, de difficultés conjugales telles qu'un accord n'est pas possible, il faut que la justice intervienne pour trancher cette situation de crise. Et c'est là où ça pose difficulté, lorsque la justice met des mois, sinon des années, à intervenir.
Selon un sondage de la commission des lois du Sénat, près de 7 Français sur 10 reprochent à la justice d'être trop lente. Alors la faute à qui ? Pour la conférence des présidents des tribunaux ainsi que plusieurs syndicats, c'est dû à un manque chronique d'effectifs et de moyens. D'après les calculs de l'Union syndicale de la magistrature, pour écouler les 23 000 dossiers en stock à Nanterre, il faudrait 30% de personnel en plus. Marianne Ingimbert est magistrate.
Aujourd'hui, vous avez à peine plus de magistrats qu'en 1880. Or, il me semble que la population française a doublé. Ça veut dire, par exemple, que dans certains services, notamment le service qui délivre les copies pénales des dossiers, vous n'avez qu'une seule personne qui est en ce moment chargée de faire l'ensemble des copies pénales. Donc, par exemple, ça veut dire que vous allez devoir attendre parfois un mois pour avoir la copie de votre dossier. Donc, c'est long. Ça veut dire que pendant ce temps-là, votre avocat non plus, il n'a pas accès à la copie de dossier. Donc, il ne peut pas s'entretenir avec vous, savoir de quoi parle le dossier. Donc, c'est embêtant. Mais pour la personne qui est convoquée devant le tribunal, qu'elle soit prévenue ou qu'elle soit victime, parce que c'est pareil dans les deux cas.
Et c'est vrai que la France ne brille pas à côté de ses voisins européens. À peine 10 magistrats pour 100 000 habitants, c'est deux fois moins qu'en Allemagne.
Bonjour madame.
Bonjour.
Présidente du tribunal judiciaire de Nanterre, Catherine Potrat alerte depuis 4 ans sur les difficultés endurées par sa juridiction.
On est dans une justice beaucoup plus complexe, une évolution de société aussi plus importante, un besoin de justice extrêmement important qui fait qu'on recourt aussi majoritairement à la justice. Et toutes ces évolutions n'ayant pas été accompagnées ou suivi des créations d'emplois nécessaires pour pouvoir y faire face. Nous avons des magistrats aussi qui sont confrontés à des aléas de la vie, à des arrêts maladie, pour les meilleures nouvelles, à des congés maternité, qui font que régulièrement nous avons des vacances de poste dans les juridictions, au-delà du fait que parfois des mobilités et des départs ne sont pas remplacés.
Si en 2021, le budget annuel de la justice a été augmenté de 8%, l'accumulation de réformes censées alléger la charge de travail des magistrats ces 4 dernières années a eu l'effet inverse.
Et pour notre chronique en un mot, on revient sur un mot anglais, mais qui se comprend très bien. Adultification, le fait de traiter un enfant comme un adulte. Il apparaît dans le dernier rapport de la commissaire à l'enfance et concerne tout particulièrement les enfants noirs qui sont traités par les institutions et notamment la police avec aussi peu de délicatesse que les adultes, un terme fort qui a beaucoup été repris à l'occasion d'un fait divers sordide. Bonjour Marie Billon, vous êtes notre correspondante à Londres.
Bonjour Frédéric.
Rappelez-nous tout d'abord ce qui s'est passé avec cette adolescente qu'on ne peut pas nommer pour des raisons légales puisqu'elle est mineure.
Oui, ça s'est passé en décembre 2020 quand la jeune fille avait 15 ans, mais l'histoire est sortie dans la presse en début d'année 2022. Chal Q était accusé de sentir le cannabis par son école. Aucune drogue n'a été trouvée sur elle et l'établissement a appelé la police. Deux agents ont procédé à une fouille à nu. Ce qu'on a retenu, c'est qu'elle avait ses règles à ce moment-là et que les agents l'ont forcée à enlever sa serviette hygiénique. On l'a forcée à écarter ses fesses et à tousser pour voir si elle cachait de la drogue dans son rectum. Là encore, aucune drogue n'a été trouvée. Aucun autre adulte n'était présent et selon un rapport d'une commission sur le bien-être des enfants du quartier de Hackney où se trouve l'école, le racisme a certainement été un facteur influençant l'attitude des policiers.
Et ce qui a choqué Marie, c'est bien sûr la manière dont une jeune fille de 15 ans a été traitée.
Voilà, aucune précaution n'a été prise, qui sont normalement la norme hein, lorsqu'un mineur est soupçonné d'un délit. Ça a choqué l'opinion certes, mais ça a moins surpris la communauté noire qui sait comment elle est souvent maltraitée par les autorités. C'est ça qu'on appelle l'adultification. Andrew George est le président de l'Association des policiers noirs du Royaume-Uni.
L'adultification décrit la manière dont la police et la société en général perçoivent les jeunes filles noires. Elles sont perçues comme plus matures que leur âge. Elles ne sont pas considérées comme des enfants, mais comme de jeunes adultes. Elles n'auraient pas besoin d'autant de protection que les autres, elles seraient plus robustes.
On parle de jeunes filles surtout, mais c'est un phénomène qui peut s'appliquer aux garçons aussi. Il y a d'ailleurs un débat entre ceux qui sont pour l'emploi de ce terme, adultification, et ceux qui sont contre, car ils estiment que ça donne l'impression que ce n'est pas vraiment du racisme. En tout cas, selon Andrew George, cette manière différente de traiter les enfants noirs a des conséquences parmi les forces de l'ordre. Elles gèrent différemment une situation dans laquelle une jeune fille noire est impliquée, comme ça a été le cas pour Chal Q.
Les conséquences de l'adultification, c'est que la police traitera les jeunes filles noires plus comme des suspects que comme des victimes. Elles ne seront pas protégées de la même manière que les autres jeunes.
Et c'est ce qui se serait passé pour celle qu'on nomme Chal Q, donc.
Oui, et pour bien d'autres, hein, il y a eu des manifestations au début du printemps en soutien à Chal Q et aussi pour appeler à se rendre compte de ce phénomène d'adultification. C'est vraiment à ce moment-là que la société en général s'est rendue compte de ce problème ou bien du fait que ce phénomène avait un nom. Mais lors d'une émission de la BBC sur Radio 4 le 2 mai dernier, l'émission s'appelle Women's Hour, l'heure des femmes. La romancière noire Candice Carty-Williams, qui a 32 ans, a partagé son expérience de l'adultification.
J'en ai toujours été consciente et ça m'a toujours fait beaucoup de mal. Ça m'arrive depuis que je suis petite. Je vois souvent ces sondages étranges sur Twitter pour demander, en particulier aux jeunes femmes noires, à partir de quel âge elles ont senti qu'elles étaient sexualisées. Et ça tourne toujours autour de 9 à 12 ans. Et je me reconnais là-dedans. Il y a cette déconnexion et c'est un problème de société. Les jeunes filles noires sont toujours des femmes, même lorsqu'elles sont enfants. Nous n'avons pas le droit à cette période de grâce d'être jeunes et juste des enfants. J'aimerais savoir d'où ça vient. Tout ce que je sais, c'est que c'est omniprésent et très néfaste.
Les manifestations qui ont lieu en mars à Hackney, le quartier de Londres où Chal Q allait à l'école, étaient en soutien à la jeune fille. Sa mère et sa tante faisaient état de son traumatisme, racontant qu'elle s'automutilait et qu'elle se réveillait en poussant des cris pendant la nuit. Les deux agents de police qui ont procédé à la fouille ont été retirés du terrain, mais selon Andrew George de l'Association des policiers noirs du Royaume-Uni et beaucoup d'autres activistes aussi, on touche ici à un racisme qui est enraciné dans les forces de la police et dans la société en général. D'après la police métropolitaine de Londres, 9000 fouilles de mineurs ont été effectuées dans la capitale ces 5 dernières années et dans le quartier de Hackney, 60% des fouilles sur mineurs l'ont été sur des enfants noirs.
Merci Marie Billon à Londres, à très bientôt. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, sur notre site. Abonnez-vous sur vos plateformes d'écoute de podcasts préférées. À demain.